Gyöngy Cifra, le pianiste virtuose. Gyöngy Cifra a quitté la Hongrie en 1956. Dans les années 1970, il a été de plus en plus connu et il était de plus en plus souvent mentionné en Hongrie car le gouvernement communiste lui a permis progressivement de donner quelques concerts en Hongrie afin qu'il soit connu. À cette époque-là, il a connu un grand succès dans les salles de concert du monde entier, de sorte que la politique culturelle hongroise ne pouvait pas refuser son admiration. Nous pouvons dire que son nom est mentionné avec ceux de Richter, Rubinstein et Horowitz. Il est particulièrement important de parler de Cifra car il est d'origine tzigane. Pour ce groupe, il est très important d'avoir une grande estimation, étant une minorité si souvent blessée dans sa dignité. Cette minorité fait partie de la nation hongroise et grâce au nom de Cifra et à bien d'autres artistes d'origine tzigane, ils peuvent également être fiers d'appartenir à cette minorité. Gyöngy Cifra est donc un trésor de notre nation.
Une personne admirable.
Pour les tziganes et pour les Hongrois en même temps. Que savons-nous de cet artiste? Il est né à Budapest en 1921 dans une famille de musiciens tziganes. Il n'a que 8 ans quand il est admis à l'Académie de musique à la base de la proposition d'Ernő Dohnányi, un compositeur célèbre de l'époque. Auparavant, en tant qu'enfant prodige, pour aider sa famille, il a été financièrement impliqué. Pendant son enfance, il a fait plusieurs concerts dans les cirques, les clubs et les restaurants. En raison de ses origines tziganes, le monde des artistes hongrois ne l'a jamais accepté
au même titre que les autres
grands artistes. Sa femme, Soleika Cifra, d'origine égyptienne, le mentionne elle-même aussi. Pourquoi il avait une enfance dure? Pendant sa jeunesse, son père vivait à Paris avec sa femme, en tant que musicien. Mais la Première Guerre mondiale a perturbé leur vie. La Hongrie, en tant qu'État vaincu, devait accepter que les Hongrois devaient quitter la France, à cause des dispositions des lois. Son père est enfermé dans un camp, sa mère s'installe à Angerfeld avec ses deux filles dans une grande misère. Gyöngy Cifra est né après le retour de son père en Hongrie en 1921. Jolán, sa sœur aînée, malgré leur pauvreté, loue un piano. Et son frère, qui avait seulement 4 ans à l'époque, a observé sa sœur. Il a commencé à jouer en improvisant. En écoutant la musique de Strauss et d'Offenbach, il joue des improvisations. Des années passent jusqu'à ce que le compositeur célèbre de l'époque, Dohnányi, décide d'aider le garçon financièrement. Même Leo Weiner et György Ferenczi ont une grande estimation de l'artiste, comme il dit. Après la guerre, il ne peut pas être accepté et respecté en Hongrie. Il se plaint, il
se tourne vers la vie nocturne.
Les connaisseurs, conscients de sa grandeur, vont l'écouter jouer toute la nuit dans certains clubs de nuit. Les pianistes célèbres de l'époque, comme Tamás Vásári, Mário Mezei, l'appellent
« le pianiste miraculeux »
et parlent de lui avec admiration. Parmi ses admirateurs, c'est Ferenc Puskás qui est souvent là, entre autres pour l'écouter jour et nuit. Le 22 octobre 1956, la veille de la Révolution, Gyöngy Cifra connaît un succès retentissant en jouant le concerto pour piano numéro 2 de Béla Bartók.
Il croule sous les applaudissements.
Le succès débordant, selon beaucoup, a aidé la création de l'atmosphère de la Révolution. Quand la Révolution éclate, sa femme persuade Cifra de quitter le pays immédiatement car il ne serait jamais pleinement reconnu en Hongrie. Personne ne l'apprécie vraiment. Après une première tentative ratée en 1950,
il essaye de
traverser la frontière. Dès qu'il traverse l'Autriche,
il arrive dans le camp d'exil
car
ils savent qu'il a quitté
la Hongrie.
Dans les jours suivants, il donne
des concerts à Vienne, à Paris et à Londres avec un succès retentissant. Le troisième jour, même Kirchschlager, le président de la République,
intervient
en Autriche afin d'aider qu'il ait ses documents rangés. En peu de temps, il est mentionné parmi les plus grands, comme nous y avons déjà fait allusion.
Encore en 1956, en décembre,
le compositeur franco-suisse Arthur Honegger
l'aide pour qu'il occupe sa place
dans la vie musicale internationale le plus tôt possible.
Rapidement, il se produit à New York,
au Carnegie Hall, pour enchanter le public. Cifra, après s'être établi en France, commence à donner des concerts et en plus, il crée une école. Sa fondation achète à 100 lits une chapelle de style gothique en cours de restauration que Ziffer considérait comme sa maison jusqu'à sa mort. C'est un véritable centre artistique. D'un côté, il y a des événements musicaux, de l'autre côté, il accueille régulièrement des expositions. Ce sont surtout les jeunes peintres talentueux, les sculpteurs et bien sûr les musiciens qui visitent son lit. André Marleau, alors ministre de la Culture, l'a soutenu pour pouvoir démarrer le centre. Les fenêtres de la chapelle sont les œuvres de Joan Miró,
commissionnées par Giscard d'Estaing,
pour aider à promouvoir la popularité de la chapelle. Après une période de grand succès en 1981, Ziffer
subit une perte
terrible. Son fils, un talent brillant,
un chef d'orchestre,
a perdu sa vie après un incendie
dans sa maison.
Après la tragédie, Ziffer disparaît pratiquement du public. Il joue de plus en plus rarement. Il n'a jamais réussi à faire face à la perte causée par la mort de son fils.